Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Alors, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. On va commencer tout simplement par ça, si vous voulez bien vous présenter.
Une femme et fière de l'être. Je suis très très heureuse d'être une femme et avec tout ce que ça comporte, les freins, mais aussi les forces qu'il a fallu pour dépasser ces freins. Et j'adore la féminité et j'adore les autres femmes. Et j'aime les hommes aussi. J'aime la création, j'aime les challenges, j'aime se réinventer. Vous voyez, je donne pas un poste parce que trop souvent on se dit, voilà, je suis ça. Je suis directrice marketing, ou j'aurais pu dire, ok, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Briser le plafond de verre d'ailleurs. Pourquoi Briser le plafond de verre? Parce que j'avais écrit un livre du même nom qui a marché très bien et qui est devenu en fait une marque dont je me suis dit autant la garder. Et finalement, le fil conducteur de tout ce que je fais, c'est d'aider les femmes à accéder à leurs rêves, à leurs désirs, à se réaliser, que ce soit en tant que présidente du Média Club Elle, qui est une association que j'ai créée pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans les médias et pour une meilleure représentation des femmes dans les médias, que ce soit à travers mes écrits dans ma société, Briser le plafond de verre, où j'interviens de 4 façons. D'une part, pour conseiller les gouvernances, pour plus de parité dans leur organisation, dans leur entreprise. Et puis d'autre part, par le biais de conférences pour sensibiliser le corps social et puis des formations pour rentrer dans le vif du sujet et que chacun puisse s'accaparer les outils. Et puis enfin du coaching aussi individuel pour répondre aux problématiques diverses de chacun.
Alors un des premiers mots, Florence, que vous avez utilisé pour vous présenter, c'est le mot frein. Ça a été compliqué pour vous? Parce que quand on vous voit, on n'a pas l'impression que votre vie est très compliquée.
Oh, qui n'a pas eu de frein? Disons que moi, je passe mon temps à débloquer les freins des autres, donc je suis les mains dans le cambouis. Mais oui, bien sûr, j'en ai eu, pour vous dire. Moi, j'ai fait mes études, parce que ma role modèle, c'était Anne Sinclair à l'époque. Je la voyais tous les dimanches sur 7 sur 7. Je trouve ça fabuleux. J'ai trouvé d'une intelligence.
Ces pulls n'étaient pas rédhibitoires
pour
vous?
Bah non, tout le monde aimait les pulls en moire à l'époque.
Annie Blatt.
Et Annie Blatt, oui. Donc, j'ai voulu faire comme elle. J'ai voulu faire Sciences Po. Donc, évidemment, je venais d'une petite ville de province. Quand j'ai dit que je voulais faire Sciences Po, j'avais beau être première de la classe, on m'a dit « mais tu n'y penses pas ». Alors j'ai changé de section, j'étais en terminale C, je suis allée en B pour essayer d'avoir une mention très bien. Puis j'ai été la seule de mon académie à l'avoir, donc j'étais fière de ça. Je fais mes études, donc je bûche évidemment. J'avais personne dans le métier, donc avec passion, j'obtiens plusieurs premiers stages à France Télévisions. Et puis enfin, le job de mes rêves, je devais rentrer au service politique de France 2. J'avais vu le directeur du service politique, c'était bon, je devais commencer en décembre pour préparer et suivre la campagne présidentielle à venir. Et puis, une semaine avant le début du début de mon premier emploi, on me dit, directeur du service politique, vous voir pour déjeuner, pour parler quand même, reparler du poste avant de commencer. Bon, je me dis, très bien, il avait réservé une petite table au premier étage, à l'avenue, avenue Montaigne. Et puis là, il commence à me dire, et vous êtes avec quelqu'un? Alors moi, je dis oui. Et il est jaloux, j'avoue, il est grec. Et j'ai inventé qu'on était déjà fiancés, même si c'était mon futur mari. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et puis ça n'a pas démonté. Il me dit qu'il adorerait me voir essayer de la lingerie dans la boutique en bas. Alors vous imaginez, c'est comme si une trappe s'ouvrait sous mes pieds et que tout d'un coup, je ne comprenais rien. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais dit qui pouvait laisser penser à ça? Moi, je devais commencer un job et voilà ce que me disait mon futur patron, quoi, mon futur boss. Et donc, ben, j'ai pas pris le job. Et c'est fou parce que à l'époque...
Pardon Florence, comment vous êtes sortie de Strakhnar? Parce que c'est... Vous aviez quel âge? Vous étiez...
Moi, j'avais 24 ans.
Donc, vous étiez une très jeune femme.
J'étais toute jeune. J'avais bien réussi mes stages et j'étais recommandée par le DG de France 3. Mais à aucun moment, il ne m'est venu l'idée d'appeler le DG de France 3. Ce que je ferais aujourd'hui, je pense que feraient les jeunes filles d'aujourd'hui plus armées... En disant, mais voilà ce qui s'est passé, je devais commencer, voilà ce qu'on m'a dit. Est-ce que... À l'époque, c'est... Enfin, on voyait même quand on faisait des stages, tout le monde nous reluquait. Enfin, on était de la... On était une proie. Et moi, je ne suis pas tombée, je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Mais évidemment, enfin, il ne serait pas venu à l'idée d'aller bosser avec un type qui me proposait ça. Et c'est ça, l'effet pervers, c'est que finalement, moi, je n'ai pas pris le job. Lui est toujours resté. Après, il a même été patron d'une chaîne. Et sur le coup, je n'ai rien conscientisé, d'ailleurs. Je suis allée à Sciences Po Emploi, j'ai trouvé un job qui était directrice d'écriture de dessins animés. Je n'avais jamais prévu de faire des dessins animés. Je suis allée un peu me planquer 10 ans, quand même. Mais c'est que... Vraiment, lorsqu'il y a eu MeToo, et avant, puisque j'en parle dans mon livre, sans dire que ça me concerne d'ailleurs, mais que j'ai pu donner son nom et que j'ai pu vraiment dire, voilà, c'est... Et encore avec MeToo, j'ai donné que ses initiales. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, toi aussi. Donc des freins, on en rencontre. Moi, je vois que ça peut changer des vies, ça peut changer des parcours professionnels. Que ce soit en politique, dans les médias, mais aussi dans plein d'autres domaines. On voit, c'est pas juste du sexisme comme ça, ça peut vraiment bouleverser des carrières. Donc c'est pas rien.
Alors c'est pas rien, on revient sur le mot frein. Vous avez 24 ans, cet homme vous fait cette proposition. J'ai pas entendu de quelle façon vous sortez de ce guépier, mais peut-être que c'est trop loin ou peut-être que vous n'avez pas envie.
En fait, ma mémoire me porte défaut. J'aime à penser que je lui ai foutu une baffe, mais en fait, je crois que j'ai pas eu le cran.
Mais vous avez quitté quand même une trajectoire que vous étiez dessinée. Quel sentiment vous aviez à ce moment-là? Parce que vous me parlez de 10 années finalement dans un secteur qui n'était pas vraiment celui. Mm-hmm. Pour lequel vous aviez des bonnes raisons d'être. Je veux dire, vous aviez visiblement réuni un certain nombre d'ingrédients qui vous permettaient d'imaginer que vous puissiez cheminer dans l'audiovisuel, puisque c'était votre choix.
J'étais faite pour être journaliste politique, j'étais passionnée de politique. Mais bon, j'ai aimé faire des dessins animés, mais au bout de 10 ans, j'aurais pu rester et gagner très très bien ma vie dans les dessins animés. Au bout de 10 ans, j'étais productrice de séries internationales, mais... En effet, je suis revenue au journalisme par la petite porte cette fois-ci avec mes propres projets. Et puis j'ai quand même réalisé des documentaires chez Capa. Mais c'est vrai que pendant des années, je n'ai pas du tout conscientisé ça qui est dingue, que c'était à cause de cet entretien. Il a fallu beaucoup de recul pour que je pense qu'on enfouit des choses.
Il y a eu des regrets. À un moment donné, parce que vous me dites, j'étais faite pour être journaliste politique, donc vous n'avez pas été.
Oui.
Peut-être que vous le serez, on ne sait pas. La vie n'est pas finie, elle est longue.
Peut-être que je ferai de la politique, qui sait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, non, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine, et c'est très bien. Moi, j'aime transmettre. Je sais que je sais créer l'adhésion. Je le vois au Média Club L, vraiment, on a eu, en quelques mois, presque 800 membres, ça a été incroyable. Donc je sais mobiliser.
C'est un peu politique ça.
Oui.
C'est un peu le fait d'une femme, d'une éventuelle future femme politique.
Peut-être.
C'est un sujet de mobilisation.
C'est marrant, j'en parle jamais, mais peut-être, bien que j'ai jamais postulé pour aucun mandat. Et puis, ce que j'aime pas, c'est évidemment les rouages, ces codes, on va dire, très yang, très masculin. Et là où j'aimerais qu'on puisse mettre plus de yin dans la politique, mais c'est sûr que. Une femme comme Jessica Ardern, par exemple, c'est c'est un vrai rôle modèle, quoi. C'est une façon de faire de la politique autrement. Mais je sais que pour arriver là où elle est, elle a dû être très stratège. Et c'est pas une enfant de cœur non plus, hein. Donc, mais je trouve que on peut pas dire toujours il faut que les choses changent et dire oui mais pas moi j'y vais pas, c'est les autres. Il faut moi je le fais à mon niveau aujourd'hui en aidant les autres. J'ai aussi beaucoup poussé de femmes à se porter candidate à la députation parce que grâce au quota justement il y avait des occasions inespérées. Et je pense que petit à petit quand même le paysage politique est en train de changer. Et tant mieux.
Il y a une vraie ouverture pour qu'il change. Alors, il y en avait une déjà au temps de Macron, puisque finalement, on a assisté à quelque chose d'inédit. Oui. Cette période qu'on est en train de vivre, elle donne aussi sans doute, enfin, elle peut permettre de dessiner de nouvelles trajectoires, parce que les gens vont sans doute peut-être emprunter d'autres chemins, se sentir plus libres. Peut-être que le télétravail, même s'il a beaucoup d'effets négatifs, il en a eu aussi, il en aura peut-être de positifs. Donc, il y a peut-être moyen de recomposer et de réinventer un certain nombre de choses en ce moment.
J'aimerais bien qu'on arrête de parler des populismes et de... Parce que ça, c'est terrible. C'est vrai que ça donne pas envie. Et en même temps, il faut se battre contre. Mais quand on voit ce tissu de fake news, c'est démoralisant, je pense, pour les gens qui ont des fortes valeurs. C'est dur d'aller en politique aujourd'hui. En même temps, on ne peut pas laisser que les personnes démagogues, peut-être, prendre le pouvoir demain. Ça fait peur pour tout le monde. Donc oui, il faut aussi repenser ça. De même qu'il faut repenser toute la société, je pense, pour un meilleur équilibre homme-femme.
Donc vous avez un vrai sujet de société en tête. Le mot politique est venu. Et puis il y a une notion sur laquelle j'ai très envie de revenir, parce que ça m'interpelle. Quand vous dites, depuis le début d'ailleurs notre entretien, moi j'aime et j'ai envie d'aider les autres. Comment ça vous est venu cette espèce d'élan, si je puis dire? C'était en vous ou racontez-nous ça.
Ah, vous avez le chic pour faire parler les gens, Carole.
C'est un petit peu mon métier, Florence, donc ça et tombe bien.
Tout le monde ne sait pas le faire aussi bien. Je crois, vous savez, ce que j'observe en coaching, par exemple, c'est que quand les gens ont une problématique à la table de la réunion, face à leur boss, ou, en fait, on remarque qu'ils prennent la même place qu'ils prenaient à la table de la famille, en fait. Et la personne qui était toujours timide, effacée, l'était, la personne qui est toujours le bout en train, ou alors le révolté de service, l'était dans la famille. Et moi, finalement, je crois que dans la famille où je suis née, depuis que je suis née, j'étais la plus jeune, mais en fait, j'ai aidé tout le monde, quoi. J'avais un papa dont la maman avait perdu, je ne vais pas faire pleurer, hein, a perdu 6 enfants. Une maman voilà, qui vivait un peu la domination machiste de son mari. Une sœur qui n'a pas accepté de plus être fille unique quand je suis arrivée. Et finalement, avec beaucoup de tristesse dans cette famille. Et finalement, ma raison d'être, ma seule survie, c'était d'être le soleil pour tout le monde, quoi. Et je vous confie quelque chose de très intime, mais c'est vrai que depuis aussi longtemps que je me souvienne, je suis là pour que les autres aillent mieux. Et alors certains disent on n'est pas dans une famille par hasard. Et donc moi, ça a fait, je ne sais pas comment on peut dire, peut-être ma raison d'être en fait, tout simplement. Et donc je sais que ça, je le fais bien.
Alors écoutez, est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos enfants? Parce que je suis dans votre environnement, j'ai trouvé des livres sur la table, à droite il y a un gros nounours. Alors vous êtes solaire, vous l'avez dit avec vos mots, vous l'avez été sans doute pour votre entourage familial, hein, comme vous venez de le décrire. Qu'est-ce que vous leur racontez à vos enfants? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les adultes ont une vraie responsabilité. On ouvre le journal, ça fait peur, il faut quand même le dire. On écoute la télé, ça fait peur. On est quand même dans un univers extrêmement anxiogène. Qu'est-ce qu'on peut raconter à ses enfants quand on est comme vous, une femme qui va de l'avant, une femme qui est dans la générosité et qui veut faire avancer les choses?
Alors, j'ai mon enfant de 8 ans, mon garçon Gabriel, qui est très, très créatif, vraiment incroyable. Il a dû me faire 10 cadeaux de fête des mères, mais tous plus beaux. Alors, c'est pas parce que je suis maman folle dingue, mais là, c'est presque du Basquiat. Enfin, c'est magnifique ce qu'il peut créer. Et il est aussi très proactif. Alors, il est en train de devenir chef de bande, mais ça nous a posé des petits soucis ces derniers mois, parce que des fois, il fait des bêtises, quoi. Et donc... On a des grandes discussions en ce moment et je lui explique que bon, avoir de l'influence, ça peut être une bonne chose, mais que c'est très important que ça soit pour faire le bien et que et qu'il faut être gentil avec ses amis, et que c'est comme ça qu'il rendra ses amis heureux et qu'il se rendra lui-même heureux. Et puis comme il est enfant unique et qu'il a un peu tendance à faire la pluie et le beau temps, là on travaille sur justement mettre des règles, des limites. Et hier, il faisait une petite colère parce qu'il ne voulait pas faire sa lecture. Et donc on a eu une grande discussion et où je lui ai dit, mon fils, il va falloir apprendre la frustration parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que c'est important parce qu'on voit les dégâts des enfants élevés comme des enfants rois qui, après, dès le moindre problème, peuvent s'effondrer. Et c'est important, même si on les adore et qu'on aimerait... De créer, pas volontairement, mais de faire en sorte qu'ils acceptent la frustration. Et je pense que l'expérience de ça, c'est important. Et qu'on ne soit pas forcément à devancer tous leurs besoins en permanence. Je pense que c'est un des meilleurs cadeaux qu'on peut leur faire. Enfin, moi, c'est l'enjeu du moment, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais...
C'est un bon point. L'éducation est faite de multiples enjeux, oui. Donc c'est celui du moment. J'ai une question. Est-ce que le mot audace, bon, c'est un garçon, est-ce que c'est un mot dont vous avez déjà discuté avec lui? Est-ce que vous le freinez ou est-ce qu'au contraire, vous le poussez à faire des choses? Comment vous saluez les mouvements, parfois, de telle ou telle personne qui ont effectivement osé, qui osent faire bouger les lignes? Comment ça se passe autour de ce mot-là chez vous?
Alors ça, moi, je le valorise beaucoup parce que je trouve ça super d'être iconoclaste, d'être créatif. Ça, je valorise beaucoup au point qu'un jour, il me dit « Maman, c'est pas une maison ici, en fait, c'est un musée. » Je dis « Pardon ?» Il me dit « Oui, avec toutes mes œuvres d'art. » Alors là, je me suis dit « Bon, il commence à avoir la grosse tête un petit peu limitée. » Certains compliments quand même à tout bout de champ. Mais donc, évidemment, moi, je valorise ça. Je valorise, enfin, c'est le fil rouge aussi de... dans mon travail, dans ce que je transmets, c'est que votre singularité est la clé de votre succès, c'est la clé de votre légitimité. Donc, pour moi, l'audace, la plus grande des audaces, c'est d'être soi. Et c'est pas facile d'être soi, surtout si on travaille dans un grand groupe, avec des codes, avec des faut faire. On a l'impression qu'il faut faire comme la personne faisait avant, qu'on est tous interchangeables. Vous savez, ce mot, oui, quelqu'un d'autre peut être nommé à votre poste, mais vous le ferez pas de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est cette différence qui va faire votre différence. Et en fait, Jacques Attali m'avait dit à 20 ans, faites quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Alors j'avoue que ça m'avait beaucoup questionnée. Et je m'étais dit, mais il n'y a rien, enfin, je ne suis pas exceptionnelle. Forcément, ce que je fais, quelqu'un d'autre peut le faire. Et en fait, vous voyez, j'en parle encore tellement c'était puissant 20 ans après parce que aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, que ce soit quand je donne des cours à Sciences Po, dans des écoles de cinéma, auprès des jeunes, auprès des plus âgés, auprès des dirigeants, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire que personne d'autre ne peut faire. Et là, vous êtes dans quelque chose qui est votre singularité, vous êtes dans votre chemin de vie, vous serez forcément aligné et forcément, vous allez être bien dans ce que vous faites, vous allez rendre les autres heureux et ça va être beau et ça va être juste.
Est-ce qu'on laisse la place aux jeunes, justement, pour exprimer ce qu'ils sont? J'entends beaucoup de jeunes qui sont très diplômés, qui n'ont qu'une envie, effectivement, c'est de s'exprimer. Et je pense qu'ils peuvent le faire avec beaucoup de raison et de rationalité. Et ils se retrouvent dans des systèmes très hiérarchisés, à la papa, comme ils disent, et très rapidement en asphyxie.
Oui.
Comment les grands groupes peuvent réagir face à ça? Parce qu'il y a urgence aussi pour eux, je veux dire, c'est oui. Des deux côtés.
Alors moi qui suis issue d'une grande école et que j'ai adoré, parce que j'ai adoré mes études à Sciences Po, j'ai trouvé que c'était une ouverture sur le monde incroyable. Je pensais qu'en étant maman, je pousserais vers des grandes écoles. Bon, mon fils est encore petit, mais je crois que je ne pousserai pas aujourd'hui. Je pense qu'il fera ce qu'il veut. Et de ce que je vois de mon expérience, quelqu'un qui est passionné de guitare, il va être un très bon guitariste, il faut le laisser faire. Et en fait, on ne connaît pas de prix Nobel de littérature qui ne soit pas passionné de littérature. C'est-à-dire que personne n'excelle dans un job s'il n'est pas passionné. Et là où il y a la passion, je veux croire, et je le constate, qu'on est forcément bon. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut être très diplômé et puis avoir vraiment des parcours de vie chaotiques et finalement pas faire une si bonne carrière que ça. Certes, on est dans un pays où en plus, quand il y a du chômage, évidemment, au fait HEC, au fait ESSEC, évidemment, vous faites polytechnique. Évidemment que ça vous ouvre des portes et que vous êtes jugé rien que sur votre école. Donc, je ne suis pas... Voilà. Je sais bien qu'on n'est pas dans le monde de oui-oui, mais je pense qu'il faut faire vraiment confiance, que de plus en plus, il y aura des trajectoires uniques. Il y aura des gens qui se formeront à quelque chose, puis à autre chose. Moi, je crois au décloisonnement. Je crois qu'il faut absolument qu'on arrête de décloisonner, de cloisonner les sciences dures et les sciences humaines. Je pense qu'en plus, avec l'intelligence artificielle et tout ça, on va forcément à la croisée de ces sciences et qu'on va avoir de têtes bien faites, pas que des geeks, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça pose des questions sociales, économiques, mais aussi philosophiques, humaines. Donc, il faut qu'on décloisonne. Il commence à y avoir quelques cursus comme ça qui mêlent les deux. Vinci, à son époque, faisait tout. Et je pense que c'est important, c'est-à-dire qu'on cloisonne pas.
En France, on cloisonne beaucoup parce que ce que vous décrivez là, je sais qu'en Angleterre, ce n'est pas le cas.
Oui.
On peut brillamment réussir en étant un littéraire, parce qu'en France, c'est quand même assez compliqué. Oui. Et puis, on peut vraiment mêler et entrecroiser, je dirais, les cheminements, ce qui est compliqué en France. On est très étiqueté et très rapidement.
Alors, je crois savoir que c'était l'idée de la réforme du bac, que chacun puisse choisir les options qu'il aime, etc. Et il semblerait, si on tire déjà les premières conséquences, c'est que finalement, il y a encore moins de filles qui sont allées vers les sciences, parce qu'avant, il fallait être dans une terminale scientifique pour avoir, soi-disant, accès aux bonnes écoles. Et que donc, encore plus, ça accroît la différence déjà entre les filles et les garçons dans les choix qu'elles vont faire. Et il faut aussi se poser la question, pourquoi la façon dont on enseigne les mathématiques ou la physique intéresse moins les filles alors qu'elles ont de meilleures notes que les garçons? Pourquoi la façon dont on les propose en grande école intéresse moins aussi les filles? Et peut-être que justement, une des solutions, ça serait de les croiser avec des sciences humaines et de faire des cerveaux mieux faits et de les attirer aussi comme ça, par la même occasion.
Vous avez parlé de votre petit garçon, alors je vais vous poser une question un peu provocatrice. Si vous aviez eu une fille, est-ce que vous auriez pensé son éducation de la même façon ou est-ce que vous seriez projeté pour elle, comme vous venez de le faire pour votre garçon, de la même façon? C'est-à-dire, on n'est pas forcément dans un créneau, on peut prendre des risques, il faut être inventif, créatif, etc. Vous vous êtes déjà posé cette question ou pas?
Je ne me la suis pas posée comme ça, mais évidemment, je donne beaucoup de formations pour essayer de se débarrasser des stéréotypes et des biais inconscients. Alors, qui je suis pour pouvoir proclamer que je n'ai pas de biais? Ça serait totalement faux. On a tous des biais inconscients. Évidemment qu'on n'éduque pas totalement de la même façon, et c'est un problème, hein. Il faut lutter contre ça, nos garçons et nos petites filles. Qu'est-ce qu'on fait quand on va dans un magasin de jouets? On dit d'abord, c'est pour une petite fille ou pour un petit garçon, au lieu de dire c'est pour un enfant qui adore l'équitation, qui adore autre chose. Donc, on est tous vecteurs de stéréotypes. Il faut lutter contre. Évidemment que si j'avais une petite fille, j'aurais dit tu peux tout, vas-y, tu peux tout. C'est ce dont on a tellement manqué, les petites filles. Moi, je me souviens, mon fils, à 6 mois, il montrait des signes d'éveil. Et deux personnes dans la même semaine, dont ma mère, m'ont dit oh, c'est un futur Premier ministre. Et j'ai dit à ma mère, qui est pourtant féministe, je lui ai dit, tu te rends compte? Moi, j'étais première de la classe, j'ai fait Sciences Po, machin. Tu ne m'as jamais envisagée, ne serait-ce que mère d'une petite bourgade. Mais mon fils, à 6 mois, c'est un futur Premier ministre. Et donc, voilà comment on projette les enfants. Et on a des biais inconscients, sans même s'en rendre compte. Et donc, une petite fille, j'ai envie de lui dire, mais tu seras Premier ministre, tu seras présidente, tu peux tout. Enfin, tu fais ce que tu veux, et si tu n'as rien envie d'être tout ça, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, tu peux tout autoriser. C'est-à-dire ne pas attendre que l'autorisation elle vienne de l'autre avec un grand A, hein, comme aurait dit Jacques Lacan, mais s'autoriser soi-même. Et pour ça, il faut qu'à un moment donné, les parents aussi aient donné l'autorisation. Ça facilite en tout cas.
Dernière question. À l'audacieuse, c'est quoi votre parcours d'audacieuse sur les 5 prochaines années? Vous avez des envies, des objectifs? Comment vous voyez les choses? Vous pouvez le dire, même si c'est un peu secret.
C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout préparé les podcasts, donc ça m'ouvre des champs de réflexion. Moi, j'ai fait 20 ans de télé. Maintenant, je suis dans la transmission, dans l'empowerment des femmes depuis 5 ans. Peut-être que un des projets d'avenir, c'est de réunir les deux et peut-être de faire un média qui traite du sujet ou d'intervenir. Bon, j'interviens déjà dans les médias, mais peut-être plus sur le sujet. Je ne sais pas si c'est... J'ai des très gros clients, je pourrais leur proposer beaucoup plus de choses, mais jusque-là, je n'ai pas grossi dans la taille de mon entreprise. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que je me freine, moi aussi ou... mais, en fait, je suis moins une administratrice, je ne suis pas une chef d'entreprise, je suis plus quelqu'un qui crée les liens, qui innove, qui a des idées, qui va fédérer, mais... La gestion d'une entreprise ne m'intéresse pas tellement, en fait. Je ne sais pas encore. Moi, je crois beaucoup à la sérénité, c'est-à-dire trouver ce qu'on ne cherchait pas. Mais ça arrive au bon moment, ça arrive comme ça doit. Il faut juste développer sa curiosité, savoir saisir les opportunités, croire à sa chance. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Maintenant, je fonctionne à l'humain.
Est-ce que vous trouvez que ça va assez vite? Parce que les rencontres, ça veut dire être un peu dépendant des autres aussi.
Non, enfin pour moi, ça a été très vite là, ces dernières années. Donc, ça a été plus vite même que je ne pensais. Enfin, donc, je suis plus que
comblée.
Aujourd'hui.
Épanouie
aussi.
Vous en avez l'air, je le dis parce qu'on ne le voit pas, mais vous avez un grand sourire depuis le début de cet entretien. Alors, on l'entend, forcément.
En tout cas. Et pourtant, je sortais d'une heure et demie de conférence. Mais vous voyez, en fait, plus on donne et plus en fait, on se nourrit. Je trouve que c'est... C'est ça qui est chouette aussi dans ce métier. Et ouais, je crois que j'ai plus peur de vieillir, c'est pas mal.
Alors c'est très bien. Ouais. Vu toute la pression que peuvent aussi ressentir les femmes autour du vieillissement, ouais. C'est compliqué de vieillir. Mmh. Pour une femme, ça l'est encore davantage, on est bien d'accord. Ça ne vous fait pas peur?
Non. Non, de plus en plus, j'admire les femmes qui ont plein de sagesse, plein de rites, qui ont envie, pour tout vous dire, je vais commencer un roman cet été où l'héroïne, enfin, une double héroïne dans une vieille dame. Et non, moi, je trouve ça beau, en fait. Après, la maladie, oui, évidemment, fait peur à tout le monde, et ça, bien sûr. Mais je trouve qu'on gagne en épaisseur de pensée, en profondeur. Moi, si je peux vieillir en ayant des discussions passionnées avec les autres et en cultivant l'amour autour de moi, ça me va, quoi.
Alors vous, Florence, vous allez faire un livre dont vous venez de parler, merci. Je suis très preneuse de cette information. Moi, j'ai très envie de faire un podcast pour donner la parole aux plus de 60 ans. Parce que, alors, j'en ai déjà des audacieuses de plus de 60 ans et qui sont merveilleuses et très épanouies et qui en ont marre, effectivement, de ces diktats et de ces images projetées comme quelque chose... Je dirais le fait d'être senior, parce que quand on a 60 ans, on peut encore espérer vivre au moins 30 ans et au moins 20 ans en bonne santé. Donc il y a quand même un milliard de choses à faire.
Ah oui, chez moi, ils sont centenaires, alors c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas peur de vieillir.
Ah mais voilà, vous avez tout dit, on sait tout.
C'est encore la moitié de ma vie devant moi.
Bon, vous avez encore plein d'années pour exprimer votre belle audace. Merci Florence Sandis pour ce beau témoignage.
Merci beaucoup. À vous Carole, c'était un très bon moment.
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.